France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1990, François Maspero publiait un étrange journal de voyage intitulé « Les passagers du Roissy Express », livre pour lequel il reçut cette année-là le prix Novembre. Ce prix littéraire a depuis changé de nom pour devenir aujourd'hui le prix Décembre. L'idée de François Maspero, accompagné de la photographe Anaïque France, était d'explorer la banlieue de Paris comme s'il s'agissait d'un pays étranger. Aucune intention sociologique, psychologique, pédagogique, juste le récit d'un voyage qui partait de Roissy pour rejoindre Saint-Rémy-les-Chevreuses. En tout, les deux auteurs explorèrent en bus, à pied, en métro et en RER les lieux couverts par 38 gares et partagèrent la vie vivante de ses habitants. Ce livre reste le modèle de ce qu'il faut faire encore aujourd'hui contre l'enfer produit par les bonnes intentions et les bons sentiments. Alain Weinstein reçut donc Maspero et son livre en septembre 1990.
Du jour au lendemain, Alain Weinstein, bonsoir. Le brave pêcheur à la ligne, sans poisson, rentre chez lui. Il ouvre une boîte de sardines et puis se met à pleurer. Du jour au lendemain avec François Maspero qui publie « Les passagers du Roissy Express » avec des photographies d'Anaïque France au Seuil dans la collection Fiction et compagnie. Il me semble vous avoir déjà rencontré quelque part, François Maspero. Vous n'êtes pas venu dans cette émission déjà ?
Si. Puis vous m'avez peut-être aussi rencontré dans les couloirs de la maison de la radio, du temps où j'y faisais partie de ce qu'on appelait les producteurs de base.
Aujourd'hui, vous avez quitté cette fonction ?
Pour l'instant, oui. Oui, ce métier.
Parce qu'il y a des choses plus importantes à faire ?
Non, c'est un très beau métier.
En tout cas, pour le moment... Vous ne faites que écrire ou traduire des livres. Alors il y avait ces deux livres publiés au Seuil, qui étaient des romans, hein, Le sourire du chat et Le figuier, dont vous êtes venu parler ici. Le figuier qui racontait un peu, disons, votre histoire, enfin d'une manière un peu transposée. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est que ce livre est de nouveau dans l'actualité, puisqu'il vient d'être pris en poche dans la collection Point Roman.
Ah oui, c'est vrai. Oui, non, c'est pas mon histoire, justement, c'était ça, finalement.
Oui, on avait parlé de cette histoire, est-ce que c'est votre histoire ?
Oui, non, c'est un livre raté, quoi. C'était... Ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de fixer des moments, des images, des situations... des couleurs bon, que j'ai connues, que j'ai traversées. Bon, et puis, peut-être, c'est trop calqué, effectivement, sur mes expériences personnelles. Et à partir de là, bon, j'ai construit un roman qui était peut-être ni fait ni à faire, j'en sais rien. Enfin, il est fait de toute manière.
Et qui racontait...
Il est même en livre de poche.
Un parcours, quand même. Hein, parcours marquant.
Oui, mais c'était l'histoire de trois personnages. Alors, il y en avait un qui partait de, quand même... je suis une antiquité, maintenant. Mais enfin, celui-là, il partait carrément de la guerre d'Espagne, quoi. Même avant, enfin. Bon, et puis, il y avait des personnages plus jeunes. Bon, dont l'antiquité actuelle correspond donc à la mienne.
Il n'y a pas si longtemps, on partait de la guerre d'Espagne. Aujourd'hui, nous partons... Un quai de gare ?
Oui. Oui, à la station Châtelet.
Il n'y a pas d'événement.
D'événement.
Qui emporte toute une vie, aujourd'hui.
Ben, si, certainement. Mais enfin, là... Là, oui, j'ai marché pendant un mois... autour de la ligne B du RER, qui est une ligne dont je connais une partie depuis mon enfance, puisque c'était l'ancienne ligne de Sceaux. Et puis, voilà, je suis parti avec Nike France faire ce voyage d'un mois, sans rentrer à Paris, de Roissy à Saint-Rémy-les-Chevreuses.
Alors ça, c'est une nouvelle écriture de François Maspero.
Bah ça, je sais pas.
Ça peut s'appeler comment, ça? C'est le reportage, le document
Ah, certainement pas. Certainement ni reportage, ni document. Je sais pas ce que c'est. Hein, c'est d'ailleurs, c'est publié dans la collection Fiction, ce qui m'a beaucoup intéressé. Parce que
il y a compagnie, hein, attention.
Il y a compagnie, oui. Alors oui, c'est ça. Moi, je suis du côté compagnie, quoi.
C'est un essai, plutôt? C'est un
livre... Je sais pas. C'est
très mauvais genre.
Quoi ?
C'est un livre qui a très mauvais genre, qu'on peut pas inscrire dans une...
Très définition. Mauvais genre ? Ben non, il a très bon genre, parce qu'il est dans la collection Fiction, donc il est forcément BCBG. Hein. Non, ça je dois dire que là, ça m'a même fait peur quand j'étais très impressionné, quand j'ai su que Denis Roche s'intéressait à ce que j'avais écrit. C'était pour moi complètement... je devenais presque un écrivain, enfin c'est fou quoi.
C'est gentil ou pas gentil, ça, ce que vous dites pour...
Non, c'est nostalgique, c'est-à-dire que... Bon, moi, j'ai commencé à écrire, j'ai 58 ans, alors j'ai commencé à écrire à l'âge de 50 ans, donc on ne vient pas écrivain à 50 ans, quoi. C'est un constat, on peut essayer de l'être, mais est-ce qu'il faut essayer de l'être? Je ne sais pas, c'est plus la peine, quoi. Donc, j'écris des livres. Mais bon, je sais bien que je ne serai jamais vraiment un écrivain, quoi. Être écrivain, c'est le travail de toute une vie. Hein. Je dis ça avec beaucoup de respect, c'est quelque chose qui...
On regarde Rimbaud, quand même.
Oui, bah, c'est ça, on commence à 16-17 ans. Mais quand on a commencé à 16-17 ans, bon, et qu'on a fait ce qu'a fait Rimbaud, alors bon, il reste l'Abyssinie, ou bien alors on travaille toute sa vie, mais on ne reprend pas, enfin, si on ne reprend pas à 50 ans... Ce qu'on reprend à 50 ans n'a plus du tout la même texture. Alors on peut essayer de chercher quelque chose qui est comme une petite musique. Bon, c'est bien. Essayer de chercher une petite musique dont on sait que... Bon, elle ne fera jamais une œuvre, mais il y a de la satisfaction d'essayer de la trouver, c'est très difficile. Il y a une certaine nostalgie, et dans cette nostalgie-là entre le fait qu'effectivement, ça ne sera jamais qu'une certaine petite musique, quoi. Mais ça serait déjà pas mal d'y arriver. Hein. Donc ce que j'ai cherché là, le long de la ligne du RER, c'était ça, peut-être. Enfin, à titre personnel, quoi.
Trouver votre voix, un peu, quand même.
Ma voix de garage, oui. D'un côté, c'est toujours mieux que la maison de la radio, où tous les couloirs tournent en rond, et on se retrouve toujours au même endroit une fois qu'on a marché.
Non, parce qu'on peut descendre les étages, ou les monter.
Si oui, mais est-ce que vous savez vraiment, quand vous êtes allé au sixième étage ou au cinquième étage dans la maison de la radio?
Avec un peu d'habitude, oui. La couleur des portes.
Il paraît qu'il y a des gens qu'on n'a jamais retrouvés.
Chaque étage a sa couleur.
On rencontre des gens qui errent et qui vous demandent, l'écran F par exemple, mais il paraît qu'il y en a qu'on n'a jamais retrouvé. C'est vrai?
Je l'ai entendu dire aussi. Mais je crois que ce sont des gens qui se cherchent, en fait, qui rapportent ce bruit. Je me demandais si ce livre, pour répondre à votre angoisse, François Maspero...
Elle est immense.
...n'avait pas été accueilli par Denis Roche dans sa collection, non pas à cause du texte, mais grâce aux photographies. Parce qu'il y a des photos quand même.
Or là, vous êtes dur, là, parce que... je crois que pour Mimi Roche...
J'ai un côté un petit peu maso, là. Je me suis dit, je vais l'aider un peu quand même.
Non. Les photos... Le livre n'existerait pas si j'avais pas pu le faire avec Anaïck France. Donc, c'était impossible de le faire sans elle. Et personne n'aurait accepté de faire avec moi ce trajet-là. Et de toute manière, on aurait craqué au bout de 3 jours si c'était pas Anaïck et moi qui nous connaissions depuis 15 ans, qui avons travaillé ensemble et qui avons partagé des hauts et des bas comme ça ensemble. Bon, alors les photos, Anaïck travaille depuis 15-20 ans, depuis qu'elle a 18 ans, elle travaille sur des milieux qu'on appelle, je ne sais pas, qui sont plutôt lumpen, et une photo qui est dur, qui est très très dur quelquefois, ça ne se sent pas tellement dans le livre, parce que là, dans le livre, on a choisi, d'abord on a été forcé d'éliminer beaucoup de visages, parce qu'on ne peut pas mettre les visages des gens sans leur demander l'autorisation. Il y a des photos d'Anaïck qui sont, celles qui ne sont pas dans le livre, les photos qu'elle fait ordinairement sont quelquefois d'une dureté, d'une violence et d'une simplicité, moi que je trouve absolument exemplaire, magnifique. Bon. Mais je pense pas que ça soit exactement le goût de Denis Roche. Et je pense que Denis Roche a été vraiment alors là, vraiment, je lui suis profondément reconnaissant d'avoir accepté. Parce que c'est pas non plus dans les habitudes des éditions du Seuil. Je veux dire, lui-même n'a pas publié, qui fait des photos admirables, il n'a pas du tout publié, jamais publié de photos aux éditions du Seuil. Donc, je peux être très reconnaissant d'avoir accepté cet ensemble. Parce que bon, pour moi, le texte n'avait pas de sens sans les photos et réciproquement. En même temps, je suppose que ça n'a pas dû être commode aux éditions du Seuil, quoi. Et bon, je peux que leur dire merci, quoi.
Mmh. Ouais, c'est
pas courant, un bouquin avec des photos au Seuil. Et je trouve que moi, je suis content de l'avoir fait. Mais peut-être que j'ai beaucoup de gens qui travaillent au Seuil, et notamment chez Denis Roche, c'était pas ce genre de photos qu'il aurait voulu privilégier. Bon, il n'y a plus eu de photos au Seuil, en gros, depuis Chris Marker. Et Chris Marker, bon, pour moi, c'est une référence énorme. Hein.
Mmh. On retrouve des photos sur les couvertures des livres, quoi. Surtout dans la collection Fiction et Compagnie.
Des photos, des œuvres d'art comme d'appel. Ça, c'est partout. C'est ouais. Ça.
Alors là, il y a donc ces deux personnages, François et Anaïck. Je dis personnages parce que dans votre livre... Vous les désignez ainsi.
C'est-à-dire qu'ils
parlent à la troisième personne.
C'est ça, sauf il y a certains moments où il y en a un ou deux qui parlent à la première personne, mais ils sont assez courts.
Mmh. Alors pourquoi ce choix de... Vous auriez pu les appeler autrement.
Ah oui, non, alors à ce moment-là, c'était... Alors, on n'était plus dans compagnie, on était dans fiction.
Mmh. Ah.
Mais non, je ne sais pas. Ça s'est produit comme ça, quoi. Ça s'est produit comme ça.
Mmh. Alors c'est amusant parce que quand vous étiez éditeur... Anaïck, justement, vous a proposé un jour un livre, un album, avec des photos prises dans un bidonville, celui du chemin des Alouettes à Carrières-sur-Seine.
Oui.
Et ça, vous n'avez pas, en tant qu'éditeur,
non, mais c'était, oui, mais bon, c'était il y a 15 ans. Hein, et les photos d'Anaïck, il y a 15 ans, quand elle devait avoir, 22, 23 ans... n'était pas, c'est pas si bien, mais bon, ce n'était pas les photos d'aujourd'hui. Mmh. Elle en a tiré une en carte postale, elle est quand même formidable. Elle avait vécu dans ce bidonville, oui, un certain temps.
Rétrospectivement, d'ailleurs, François se donne tort de ne pas avoir publié.
Non. Le François qui écrit s'est mal exprimé quant au François qui le met en scène, parce que C'était pas possible, j'avais pas les moyens. Non, je me donne tort, ça c'est beaucoup plus général. Enfin, peut-être qu'il fallait les publier effectivement, faire ce que j'avais envie de faire 10 fois plus, et puis couler la baraque 10 fois plus vite, et me remettre à écrire des bouquins 10 fois plus vite. Peut-être.
En tout cas, ça lui avait permis de rencontrer Anaïck, cette histoire de livre.
Oui, c'est-à-dire que c'est ça, oui, on s'est rencontrés à ce moment-là, et puis il s'est trouvé qu'Anaïck était standardiste chez un avocat de gauche, Georges Pinet, et pour qui nous avons gardé tous les deux une très très grande affection, qui était le défenseur de toutes les causes perdues, possibles et imaginables, qui était un grand avocat. Et voilà, et on s'est retrouvés, et un jour que je venais chez Georges Pinet, la standardiste était Anaïck. Et puis ce temps-là, on a toujours... bon, elle m'a envoyé des photos, et bon, on a toujours parlé, marché, travaillé ensemble, quoi. Sur des...
Ces photos, vous les aimiez ?
Oui, beaucoup, beaucoup. Je pense qu'il y a une vérité des gens, c'est très simple. Enfin, c'est très... pour moi, j'ai beaucoup de mal à l'exprimer, je sais pas...
C'est difficile de s'expliquer pourquoi on aime.
Oui, bien sûr, c'est difficile. Mais il y a quelque chose qui fait que les gens ne sont pas traqués dessus, mais qu'ils ont une vérité qui est quelquefois quand même tout à fait insoutenable. Justement parce que ça va beaucoup plus loin, c'est pas l'image à la sauvette. Il y a une espèce de lente acclimatation d'Anaïque avec les gens qu'elle photographie, une communication, et quelquefois finalement, ce qu'elle apprend d'eux, c'est pas seulement la photo qu'elle prend, quoi.
D'ailleurs, dans le livre, donc avec le recul que permet l'écriture, François peut s'expliquer un petit peu sur son goût, son intérêt pour ses photos. Il dit qu'elles ne sont pas faites par surprise.
Oui, c'est ça.
Que ce ne sont ni des images à la sauvette, ni des images violes.
Ce que je viens de dire.
Et qu'il n'y a pas de mise en scène dans ces photos. Donc ça élimine à peu près tous les cas de figure.
Oui, c'est ça. C'est peut-être très difficile à, c'est très difficile à cerner, oui. Il y a quelque chose qui se passe et qui est très lent par rapport à entre le photographe et entre la photographe et puis les gens. Bon, et alors c'est pour ça que dans le livre c'est très différent parce que Anaïque s'est trouvée dans des situations finalement. Anaïque ne fait pas de photos de reportage, elle n'en a pas fait en tout cas. Et donc là elle s'est trouvée dans une situation un peu différente de quelqu'un qui passe alors qu'elle c'était quelqu'un qui reste. Voilà.
Il n'y a pas d'esthétique là-dedans.
Bah certainement que si, je pourrais qu'il n'y aurait pas d'esthétique. L'esthétisme, c'est peut-être une autre chose, mais d'esthétique, il y en a toujours une, ou alors ça serait quoi ?
Non, mais ce qui vous intéresse, vous, dans ces photos, c'est pas vraiment la photo elle-même, c'est l'histoire, peut-être.
Ah non. Non, c'est le regard de quelqu'un, c'est la... Non, c'est tout ce qui peut intéresser dans une photo, c'est... Tout ce qui peut intéresser...
Un univers ouvert, c'est pas clos.
Ah ça, j'en sais rien.
Il y a cette phrase que je trouve assez belle, on peut la prendre dans bien des sens, c'était des photos qui prenaient leur temps.
Oui, c'est ce que j'essayais d'exprimer, c'est ça. Bah, prendre son temps, c'est ce qu'il y a de plus difficile, comme vous le savez, en 1990. C'est ce qu'on a essayé de faire, pour retomber sur mes pieds, dans ce voyage. Un mois pour aller de Roissy à Saint-Rémy-les-Chevreuses, c'était dans notre esprit prendre notre temps. On pensait qu'on aurait beaucoup de temps et on avait même emporté des cartes à jouer, moi une traduction. Et puis on s'est trouvé débordé par tout ce qu'on voyait, toutes les marches qu'on a faites, on n'a pas vu la moitié des gens qu'on voulait voir, ni la moitié des choses. Mais, d'une certaine manière, on a quand même pris notre temps par rapport à tant de gens.
Et prendre son temps, c'est aussi l'arracher au cours.
Oui.
S'en emparer.
Oui.
Le fixer. C'est un peu ça l'objectif aussi, du photographe.
Ah, le photographe, oui. Oui, bien sûr. C'est l'objectif de toute création. Oui.
Autrefois, c'était les fleuves qui montraient le cours du temps, et aujourd'hui, ça serait les lignes de RER, alors.
Écoutez, j'en sais rien. Tranché.
Le livre répond.
Non.
Non.
Le livre ne répond à rien. Il ne répond à rien. C'est peut-être un livre sans queue ni tête. Mais enfin, il a un départ et un terminus. Encore que le terminus, Saint-Rémy-les-Chevreuses, la ligne se prolonge. Et ça fait partie des légendes. C'est-à-dire que chacun des riverains de la ligne, qui habitent là, les uns depuis 30, les autres depuis 50 ans, ont leur version de la ligne qui continue après, qui continuait, ou qui aurait continué, ou qui aurait dû continuer, ou qui n'a jamais continué après Saint-Rémy-les-Chevreuses jusqu'à Limours. Un grand géographe comme Yves Lacoste, expert en géostratégie, m'a expliqué que cette ligne n'avait jamais existé. Alors en fait, j'ai une photo de la gare de Boulay-les-Trous en pleine activité. Voilà, le genre de choses capitales que nous avons même pas explorées. Hein.
Je voudrais revenir, François Maspero, un moment sur le titre que vous avez choisi pour ce livre, tout de même, parce que ça répond un peu à la question que je vous posais, qui vous a semblé sans queue ni tête, tout à l'heure. Le titre, c'est « Les passagers du Roissy Express ».
Oui. Je n'ai pas dit que la question était sans queue ni tête, j'ai dit que le livre était probablement sans queue ni tête.
Mmh. Ça, vous dites ça pour vous faire plaisir, vous rassurer.
C'est bien que alors c'est pas vrai. Les passagers. Ah non, non, mais c'est ça, ça. Non, je l'assumerais complètement. Si c'était vrai, j'aimerais bien. Je pense que. Bon, prendre un livre par le début, le terminer par la fin, c'est fatigant. Bon, c'est comme le RER. Il n'y a que nous qui l'ayons fait depuis le début jusqu'à la fin. Et il y a une chose. Bon, bah, il y a un truc que j'aime beaucoup dans mon bouquin. Il n'y a que moi qui l'aime. J'ai fait une poésie minable, complètement minable, qui s'appelle L'ode aux chiens parisiens. Non, maintenant, ça s'appelle L'ode aux chiens français. C'était plus digne. Et alors, elle est vraiment complètement minable, mais je l'adore. Bon, bah, s'il y a quelqu'un qui, un jour, qui me dit, bah, j'ai pas lu ton bouquin, mais j'ai juste regardé la petite poésie, je trouverais ça, bon, c'est déjà, je trouverais ça, c'est bien, quoi. Mmh. Donc, non, c'est... Alors, les passagers, bah, c'est pas forcément nous, hein, c'est tout le monde, tous les gens qui montent, qui descendent, et qui se retrouvent, qui reforment des familles chaque jour. Ça, on en a pas beaucoup parlé. Mmh.
Ce sont des voyageurs, les passagers ?
Oui, c'est les voyageurs. Non, il n'y a pas d'allusion au passage, à toutes les variations littéraires qu'on peut faire sur le mot passage. Non, non, c'est venu comme ça.
Oui, mais après, on peut...
Après, oui. Mais ça, c'est au lecteur. C'est pas à moi. J'ai pas pensé.
Alors, en fait, c'est un sujet qui s'est imposé à vous sur le terrain, si j'ose dire, puisque... Le point de départ, je crois que c'était tout de même un repérage en vue d'émissions de radio, non ?
Ah oui, non, c'est-à-dire c'est un vieux truc qu'on avait de toute manière avec Anaïk. Ça fait très longtemps qu'on voulait faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire, on avait proposé, mais moi je ne suis jamais très, très, très tenace dans mes propositions. J'avais proposé il y a une année à votre honorable chaîne. Une émission qui consisterait à remonter pendant plusieurs jours la rue Montorgueil. Il se trouve que Marie-Dominique Arrigui, qui est une des meilleures assistantes de réalisation de France Culture, habite près de la rue Montorgueil et que c'était juste le moment où la rue Montorgueil commençait à basculer et maintenant elle va devenir rue piétonnière. Il y avait quelque chose de formidable à faire, à la fois en radio, à mon avis, et en photo. Bon, on pouvait faire ça. Bon. Et c'était l'époque où on vendait, il y avait un boucher qui vendait de la viande de castor, rue Montorgueil. Entre autres, il y avait plein de trucs comme ça. Et puis il y avait toute l'histoire. Il y avait toute l'histoire qui est sous-jacente là, et on a très très peu, on n'a pas beaucoup de mal à se donner pour qu'elle ressurgisse. Alors sur la ligne du RER, c'est plus complexe, mais l'histoire ressurgit aussi. Et donc c'est vrai que j'avais pensé faire une émission de radio, et puis c'est très lourd, quoi. Et puis l'écriture, c'est la seule chose, l'écriture, la photo, c'est des choses complètement individuelles. Et c'est la chose qui ne demande pas les énormes moyens. On n'a pas besoin de se faire financer par le Conseil général du Val-de-Marne, forcément, pour écrire un roman. Enfin. Et on est parti. Le Seuil nous a payé nos frais de voyage et de pellicule. Hein. Et donc,
même ça ne dit pas pourquoi vous avez...
Et on a abandonné la radio pour ça, parce que c'était trop lourd.
Ça ne demande pas des moyens considérables non plus, la radio.
Écoutez, vous savez très bien que partir un mois sur la ligne B du RER, d'abord, à quel tarif Radio France va défrayer va payer les frais de déplacement de l'équipe, hein, producteur, réalisateur. Et preneur de son, hein, sans compter qu'Anaïk, photographe, alors elle n'a pas sa place là-dedans. À quel tarif on va le compter, puisque la région parisienne, ça ne couvrira les tarifs que paye de frais de déplacement que paye Radio France dans la région parisienne, ne paye certainement pas ce que nous avons payé en bistrot et en frais d'hôtel. Hein. Par exemple, bon, je vois déjà la gueule de mes camarades réalisateurs, assistants de réalisation ou preneurs de son, quand je leur dis, oui, mais écoutez, on n'a pas fini, à 10h ce soir, on continue après le dîner. Bon, et le dîner, alors dis donc, il a découvert. Bon, non, je vois déjà le travail. Hein.
N'empêche que la radio.
Elle vous a
envoyé beaucoup plus loin, François. Elle vous a envoyé en Chine, par exemple.
C'était génial, ça. Hein? Ça, c'était formidable. Parce que, alors là, effectivement, il n'était plus question de râler, on y était, on ne pouvait pas revenir, il n'y avait pas d'avion. On a été forcé, puis l'équipe était formidable. Non, mais ça, c'était fantastique. Ça, c'est les souvenirs de radio fantastiques, parce que c'était avec Marie-Dominique Arrigui, parce que c'était avec Patrice Klein, et que vraiment là, on s'est traîné sur, alors, notamment en train, sur un mois à travers toute la Chine en hiver, et c'était très très beau. C'était très angoissant, mais c'était très beau. Et là, il y avait une solidarité d'équipe fantastique. Qui s'est créé comme ça, avec tout ce que ça comporte, quoi, de conflits, de régler, de très grandes angoisses et de très grandes joies, quoi. Ça, oui. Mais sur le RER, je crois que ça aurait été mauvais parce que le dépaysement, on arrive il y avait quand même quelque chose à il fallait forcer. Le dépaysement, il n'était pas acquis, quoi. Et le jour où une amie nous a dit, bon, je vous prends en voiture et que, bon, elle nous a dit, venez prendre le thé chez moi, et qu'on s'est retrouvés au cœur de Paris, au pied de mon immeuble, c'était pratiquement, le voyage était cassé. Bon, et ça ne se joue à deux, mais ça ne se joue pas dans une équipe hétéroclite. Voilà pourquoi, finalement, le projet de radio je ne l'ai pas fait. Parce que je crois que, à France Culture, j'avais toute la... On m'était très généreusement ouvert à ça, c'était pas le problème.
Non, mais je mettais la Chine sur la table, entre nous, là, parce que c'était pas vraiment pour ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de la radio, mais c'était pour vous demander comment on pouvait passer de la Chine, de ces voyages que vous avez faits au bout du monde, au Roissy Express.
Ben justement, je pense que c'est logique. C'est la Chine qui envoie directement sur le Roissy Express, hein, parce que c'est pas possible. On peut pas aller en Chine et puis ensuite se replier chez soi et ne pas aller voir ce qui se passe ce qu'on va voir en Chine et ce qu'on ne va pas voir à 100 mètres de chez soi. Moi, j'avais été frappé une fois. J'avais comme ça il y a très très longtemps. Je voyais des gens qui débarquaient, des intellectuels de gauche qui débarquaient dans un pays du tiers monde. Socialistes et qui se faisaient montrer des réalisations fantastiques, mais ils visitaient des usines de textile, par exemple, et jamais ils avaient visité une usine de textile de leur vie en France. Il n'était pas question qu'ils le fassent jamais, mais ils trouvaient ça admirable. Donc, il fallait... Bon, c'est aussi toutes ces histoires de voyage qu'on voit ces dernières années, c'est passionnant, mais bon, le voyage, il commence effectivement rue Montorgueil, quoi, ou sur la ligne du RER.
C'est donc le sursaut d'une prise de conscience ?
Non. C'est un vieux rêve. D'abord parce que je l'ai dit au début, moi, la ligne de Luxembourg-Saint-Rémy-les-Chevreuses, je l'ai faite depuis l'âge de 12 ans. J'ai même assisté au mitraillage du train le 6 juin 1944 en gare de Saint-Rémy-les-Chevreuses, quand j'avais 12 ans. Il y avait plein de choses à découvrir. J'avais jamais monté sur le viaduc d'Arcueil. Là, je suis monté sur le viaduc d'Arcueil, qu'on découvre du train en passant. Et je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas quand il avait été construit, pourquoi, ni comment. Et tout d'un coup, on arrive à Arcueil, et puis on rencontre un garçon fantastique, passionné de l'histoire d'Arcueil, et qui nous dit « Est-ce que vous voulez monter sur le viaduc d'Arcueil ? Demain, on va déposer, on va y mettre des banderoles bleu-blanc-rouge pour le bicentenaire. Ben, » C'était formidable, c'est formidable, le rêve de ma vie, quoi.
Alors là, en attendant, ne passons pas les stations comme ça sans nous arrêter, parce qu'il faudrait que vous nous parliez de ce qui s'est passé un 2 janvier. Vous veniez de Roissy, vous étiez dans le RER, et vous lisiez un article.
Bah oui, c'est ce que je disais à propos de tous les récits de voyage. Bon, alors là, il fallait bien faire partir mon voyage d'un moment précis, donc je l'ai situé ce jour-là. Revenant de Roissy, où je lisais Danube.
Roissy, côté oui, aéroport ou côté Roissy, histoire d'eau
Non, histoire d'eau, c'est beaucoup plus vieux. Là, je lisais. Puisque vous parlez d'histoire d'eau, alors j'ouvre la parenthèse. Il n'y a pas de souvenir d'histoire d'eau, il n'y a pas de plaque commémoratrice. Vous savez, quand on arrivait à Béziers, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait Bienvenue à Béziers, capitale des Qatars et du bon vin. Bon, et il n'y a pas Bienvenue à Roissy en France, pays d'histoire d'eau et. Il n'y a pas de monument à Pauline Réage.
Les livres qui permettra en suscitent fait de savoir peu qui de monuments. Il n'y a plus beaucoup de lecteurs.
Ah si, partout. Écoutez, il y a l'itinéraire du Grand Maune, il y a l'itinéraire de Georges Sand. Donc il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas l'itinéraire de Haut. Mais enfin, il n'y a rien, Roissy. Mais alors là, on s'est égaré.
Non, parce que vous parlez d'eau, et moi je vais vous parler d'un fleuve, le canal de l'Ourcq. Danube.
Ah oui, oui. Alors, on n'est pas encore au canal de l'Ourcq, puis on n'y arrivera jamais au train où on va. Ah, le Danube, écoutez, le Danube.
C'était quand même un grand succès, hein, ce livre de Claudio Magris.
J'ai jamais réussi à le lire jusqu'au bout, alors c'est ça qui m'a un peu énervé, et je trouvais que l'idée était géniale. Alors maintenant, quand les gens me disent « Ah, dis donc, vous avez eu une drôlement bonne idée de faire ce voyage sur le RER », je pense toujours que oui, c'est vrai, mais c'est pas si simple d'avoir une bonne idée et d'aller jusqu'au bout. Alors le livre de Magris est très beau, mais je suis jamais arrivé jusqu'au bout, mais j'ai lu effectivement ce jour-là, le 2 janvier 89, l'article de Maurice Nadeau sur le livre de Magris dans la Quinzaine littéraire, où il en disait un bien fou, et je me suis dit, ce type a descendu le Danube en cherchant l'histoire, les gens, etc., et pourquoi pas descendre ce que je suis en train de descendre en ce moment, c'est-à-dire la ligne du RER. Voilà.
Voilà comment un projet est né d'un livre. Enfin, un projet de livre est né d'un autre livre.
Oui, mais enfin... Ça serait venu tôt ou tard, oui.
Aujourd'hui, l'aventure a été vécue, François Maspero, puisque le livre est là, et devant moi, Les Passagers du Roissy Express, donc qui paraît au seuil, avec les photographies d'Anaïs France. Mais ça a été une aventure, c'est pas rien, hein, 38 stations, 38 gares, on va pas s'arrêter à toutes les gares ce soir, et un parcours de 60 km. Vous avez mis combien de temps pour parcourir ces 60 km?
On avait prévu un mois, et puis on s'est... Bon, enfin, 4 semaines, quoi.
Et vous avez bien fait les choses, vous ne reveniez pas tous les soirs dormir à la maison.
Non, c'est ça. La règle qu'on s'était fixée, c'est de ne pas rentrer à Paris pendant ces 4 semaines, et sauf une bizarre histoire qui nous est arrivée, où quelqu'un nous a ramené à Paris sans que nous lui demandions, où il a fallu reprendre d'urgence le RER qui ce jour-là était en grève. On a tenu parole.
Et alors au bout du voyage Saint-Rémy-de-Chevreuse, comme par hasard, Saint-Rémy-de-Chevreuse, la ville de votre enfance.
D'une partie de mon enfance, oui, enfin en tout cas de ma famille, mon grand-père s'était fixé là il y a 100 ans.
Et c'était ça, le grand dessin ?
Non. Non, mais c'était bien commode. D'arriver, de marcher à travers les bois en descendant de la gare de Saint-Rémy-les-Chevreuses et après avoir traversé tant de cités, de marcher à travers les bois et d'arriver dans la maison de mon enfance où justement ma fille fêtait son anniversaire, qui avait son 10e anniversaire et où il y avait une vingtaine de gosses qui jouaient. Ce fut une belle arrivée, triomphale.
Avec Anaïque, évidemment, vous avez fixé des règles du jeu.
Oui.
Alors c'était quoi ces règles ?
Oh non, c'était très simple, c'était de ne pas rentrer à Paris, c'était tout. Et pour le reste, de ne pas avoir de règles, c'est-à-dire de ne faire ni de la sociologie, ni de l'ethnologie, pas d'enquête. Sans ça, on serait devenu... on n'était pas compétents, on n'a pas fait de sociologie de la banlieue... Pas beaucoup d'enquêtes. Bon, moi, il se trouve que je n'ai pas de formation particulière dans aucun de ces domaines. J'ai publié des livres autrefois sur l'urbanisme. Un très très bon livre qui s'appelait « De la cité ouvrière au grand ensemble » de Patrice Noisette. Et bon, plusieurs autres livres. Mais je n'ai pas de formation particulière. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup connu de gens qui vivaient en banlieue, bien sûr.
Mais la règle, c'était aussi de s'arrêter à chaque station.
Oui, c'est ça.
De s'arrêter, de trouver à se loger.
Oui, donc de trouver un hôtel, sans faire particulièrement dans le sordide ou le cradingue. Si ce n'était pas possible à éviter, on ne l'évitait pas. Et puis, d'essayer de progresser, ce qui était difficile, parce que finalement, les stations ne correspondent pas.
C'est loin des villes.
Oui, elles sont loin des villes. Et puis, les découpages des villes sont assez aberrants. Quand on descend à Villepinte, on n'est pas du tout à Villepinte. On est à Aulnay-sous-Bois. Enfin, c'est tout le temps comme ça. Mais enfin, on y est arrivé. Mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup marché.
Regardez,
écoutez. Oui.
Il fallait aussi ne jamais faire semblant. C'est-à-dire que vous étiez ce que vous êtes.
Oui, c'est pas une règle de jeu. Ça, c'était une espèce de... éthique, c'est un grand mot, mais c'est un peu ça, quoi. Ne pas dire... C'est difficile parce que les gens vous prennent pour... Bon, très souvent, on est deux. Il y en a une qui prend des photos... les gens peuvent nous prendre beaucoup pour des gens qui viennent de la mairie, qui font une enquête, ou des journalistes, beaucoup des journalistes locaux, des journaux locaux qui sont finalement très lus. Et puis le pire, c'est quand ils nous prennent pour, comme dans la plaine Saint-Denis, comme des gens qui sont venus regarder comment on va faire la grande opération immobilière. Ça. Et puis alors dans le sud, où c'est plus cossu, on nous prend pour des... On nous a pris facilement pour des gens qui cherchaient une maison à acheter. Ça, c'est une expérience intéressante. Pas passionnante non plus.
Mais il y avait quand même un sérieux problème d'identité, parce que si vous n'étiez ni sociologue, ni ethnologue, journaliste, ni touriste...
Qu'est-ce qu'on était ?
Qui étiez-vous ?
On était des gens qui avaient... On était tous les deux, Anaïck France et François Maspero, en train de se promener jour après jour, rencontrant tous les gens avec qui on a parlé vraiment... sérieusement, ou les amis, ils savaient très bien quel était notre projet, on ne l'a jamais caché, mais personne ne nous a jamais demandé non plus qu'est-ce que vous faites. Donc notre identité, nous la connaissions parfaitement, et puis à part une fois où dans un foyer africain, on nous a demandé effectivement qui nous étions, on n'a pas dit qu'on faisait un livre, effectivement. En plus, c'est difficile de dire qu'on fait un livre quand on ne l'a pas encore fait, c'est toujours une manière de... Vendre la peau de l'ours, ça c'est désagréable. On n'a jamais, jamais triché avec ça.
Alors Anaïck prenait des photos et vous preniez des notes,
hein? Oui, en prenant des notes, en enregistrant. Vous savez, en plus, les gens parlent, et surtout les
vieux... Vous avez enregistré ?
Un peu, oui. Les gens parlent beaucoup. Les gens parlent beaucoup quand et ils ne vous demandent pas qui vous êtes. Enfin, vous le savez bien. Je me vois très bien dans le cimetière du Bourget. On était en train d'en garder simplement, bon là, les monuments des de la bataille du Bourget, de la guerre de 70. Bon, et spontanément, il y a un homme qui est venu nous raconter toute sa vie et c'était, il y avait des tas de choses absolument passionnantes, mais il nous a jamais, à aucun moment, demandé qui nous étions. Et ça, ça se produit partout, surtout les personnes d'un certain âge parlent. Les jeunes aussi, d'ailleurs. Et ils ne vous demandent pas qui vous êtes. Il suffit d'écouter, il suffit de pas presser les gens de questions et ça vient tout seul. Si quelquefois même ça vous submerge. Alors les gens qui viennent... ce qui est formidable, c'est la conjonction de l'histoire telle qu'elle jaillit quand on gratte un peu, quoi, du sol, hein, de la plaine de France. C'est fantastique, c'est complètement jonché d'histoire, de toutes les batailles, des siècles et des siècles. Et puis la conjonction de cette histoire, et puis la conjonction de l'histoire des gens qui viennent de très loin, qui parlent de ce très loin, mais qui parlent de ce très loin dont ils viennent, mais qui sont quand même maintenant de là. Hein. Que ce soit la première ou la deuxième génération d'immigrés, ou la troisième. Bon. Les gens sont avant tout maintenant d'Aulnay, d'Aubervilliers. Bon.
Ce matériau, donc ces notes ou ces enregistrements que vous avez faits, comment vous l'avez ensuite utilisé? Est-ce que vous aviez un principe?
Vous attendez vraiment. Je vais tout de suite vous répondre comment je l'ai utilisé. Mal, mais je ne sais pas quoi vous dire là. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit, j'en ai beaucoup enlevé, parce que tout ce qui était sociologique, tout ce qui était discours sur l'urbanisme, j'ai coupé. Bon, de temps en temps, très souvent, on est très irrité, on rencontre les grandes opérations comme Banlieue 89 de Roland Castro. Bon, alors, j'ai ma petite histoire à moi, donc j'ai croisé Roland Castro quand il était marxiste-léniniste, maoïste, révolutionnaire. Bon, le discours de Banlieue 89 aujourd'hui, c'est le ségala du maoïsme. Enfin, c'est... Bon, alors c'est irritant, mais tout ça j'ai coupé. Et puis il aurait fallu un deuxième volume pour faire le Sud, là que je connaissais mieux aussi, et puis qui est plus bourgeois. Enfin, en tout cas dans la fin, parce que on peut pas dire vraiment que Gentilly, Bagneux ou Arcueil soient bourgeois quand même.
Là, c'est le renversement de l'axe Nord-Sud alors.
Malakoff qui devient un peu bourgeois, mais...
Oui, c'est vrai, je le constate tous les jours. Mais la banlieue, donc, si c'est pas celle de Castro, c'est quoi?
Celle de Roland Castro? Alors là, je veux pas porter de jugement. Hein. C'est la banlieue de Paris, c'est quelque chose qui ne ressemble pas à la banlieue... Là, je viens de passer un mois à Varsovie... qui ne ressemble à rien d'autre et où les gens vivent et bon c'est où les gens vivent parce que Paris s'est vidé et que bon il faut les uns et les autres il faut bien qu'on aille vivre quelque part donc le centre aujourd'hui est dans la périphérie, il est dans la banlieue. Bon, alors on peut tenir tous les discours sur le mal à vivre, etc. Mais les gens, bon, on y vit. Hein.
C'est devenu un lieu de promenade à la mode, quand même. Parce que, regardez, Marguerite Duras aussi aime bien se promener en banlieue.
Oui.
Pas de commentaire.
Non, je sais pas quoi dire, là.
Un voyage,
c'est grand, alors on risque pas de se croiser. Quoi.
Un voyage, ça se prépare? Vous aviez consulté les guides?
Non, pas beaucoup. Il y a quelque chose de très très pratique, et ça, je reste très reconnaissant aux municipalités, parce que moi j'ai écrit à toutes les municipalités ce qui était sur notre parcours, et toutes les municipalités ont édité un livre pratiquement d'histoire sur leur... Et là, c'est formidable, il y a toutes les sources, c'est ordinairement très bien fait, quand on enlève la... Le côté un peu propagande politique, c'est vraiment très très bien fait. Bon, et à part ça, je n'étais pas ignorant, quoi. Je n'étais pas ignorant de cette histoire-là non plus. Enfin, c'est une histoire qui m'a toujours passionné. Bon.
Depuis que le livre est sorti, François Maspero, est-ce que vous avez refait le voyage en RER?
Oui. Oh bah oui, le RER, je le prends presque, je le prends toutes les semaines, plusieurs fois par semaine même. Alors, oui. Est-ce non, final, la seule originalité de la chose, c'est que finalement personne ne prend le RER du terminus enfin du point de départ au terminus. Mais oui, par exemple, mardi dernier avec Anaïk, on est retourné sur le canal de l'Ourcq. Mais le canal de l'Ourcq, il n'y a pas d'eau en ce moment. Il est en c'est comme dans l'histoire de Raymond Devos, là, il est démonté, quoi.
Est-ce que dans le Roissy Express, on lisait votre livre?
Est-ce que dans le Roissy Express, on lisait mon livre? Que je comprends pas la question.
Comment vous ne comprenez pas la question?
Non.
Les passagers du Roissy Express, ça n'attire pas les passagers du Roissy Express?
Ah oui, vous voulez dire maintenant, la semaine dernière? Ah non, pas du tout. Non.
Le livre de François Maspero, Les passagers du Roissy Express, aux éditions du Seuil, dans la collection Fiction et compagnie. Du jour au lendemain, Simone Rongier, Bernard Treton, François Poirier, Alain Weinstein. Bonsoir.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 21 septembre 1990.